de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse nous placent dans le dénouement de l'humanité terrestre, de l'histoire de l'humanité. Et là, nous sommes dans ce que la Bible appelle, ou ce que nous appelons plutôt, le jugement des morts, ou le jugement dernier. Dans ce passage, nous comprenons rapidement plusieurs choses. Nous comprenons que la terre et le ciel disparaîtront, la terre et le ciel tels que nous les voyons aujourd'hui, et Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça ne plaît pas aux témoins de Jéhovah, mais c'est clair et net. Nous découvrons qu'il y aura deux conditions possibles qui suivront. La vie dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre avec Christ, ou une éternité loin de Dieu, ça ne sera pas un anéantissement, mais une existence loin de Dieu, faite de tourments, de regrets et de souffrances, au siècle des siècles. Vous savez que la Bible n'utilise pas le mot « enfer », mais elle parle de géhenne. Jésus a beaucoup parlé de géhenne. La Bible parle de châtiment éternel, la Bible parle des temps de feu, la Bible parle de perdition. Ce que ce passage nous apprend aussi, c'est que tous les hommes qui ont vécu sur terre, quelles que soient les époques, seront jugés. La mort rendra toutes ses victimes, où qu'elles soient. Samedi matin encore, on m'a encore posé, c'est très souvent qu'on me pose cette question, sur l'incinération. Et donc la réponse que l'on fait habituellement, c'est que ce n'est pas la manière dont notre corps sera traité. Ce qui est important, c'est avant d'être sauvé. Mais je me dis, si nos cendres sont balancées en pleine mer, à un moment donné, la résurrection, notre résurrection, risque de prendre là, si, à un moment donné. Aucun n'échappera, petit et grand. Le seul moyen d'y échapper, c'est finalement d'avoir été déjà jugé à la croix et d'avoir pris part à la première résurrection. Dans ce jugement dernier, ce n'est pas Satan qui accusera, c'est Dieu qui sera juge. Jésus est venu pour sauver les pécheurs et il a dit « Je ne viens point pour juger ». Mais la Bible dit clairement qu'à un moment donné, Jésus-Christ sera le juge. Dieu jugera par Jésus-Christ, nous dit l'épître de Paul aux Romains. Et puis, nous découvrons que seront condamnés tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Il n'est pas parlé des personnes qui sont inscrites dans le livre de vie parce qu'elles sont jugées ailleurs. Elles sont finalement déjà jugées et auront part au tribunal de Christ, au tribunal des récompenses. Je voudrais m'arrêter sur le livre de vie et partager quatre choses sur le livre de vie. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que le livre de vie n'est pas le seul livre tenu par Dieu. À plusieurs reprises dans la Bible, on découvre qu'il y a des registres ou des livres qui sont tenus. Le premier que j'ai relevé, c'est le livre de nos jours. Alors, je ne sais pas si c'est un livre qui est tenu par Dieu ou c'est une manière de parler. Dans le psaume 139, verset 16, David écrit ceci : « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » On connaît ce psaume. David prend conscience de la grandeur de Dieu. Il est omniscient. Il est omniprésent, on ne peut pas lui échapper, et il écrit ceci. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que ce livre existe vraiment, ou est-ce que c'est une manière de parler? Dans le psaume 56, verset 8, David encore écrit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» La Bible nous parle d'un autre livre, le livre du souvenir, Malachie, chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Qu'est-ce que ce livre du souvenir? Manifestement, il s'agit d'un livre où l'on conserve les œuvres plutôt des justes, des croyants. On peut penser en tous les cas qu'un tel livre sera utile au moment du tribunal de Christ. Il est question des justes. Il est important de comprendre que tous ces livres ne sont pas finalement pour lui. Ils sont plutôt pour nous, pour qu'au moment du jugement, les choses soient consignées par écrit pour bien montrer que ce n'est pas un jugement arbitraire, mais des choses qui ont été attestées, consignées et enregistrées. Et puis, il y a le livre des œuvres de chacun. On vient de lire dans ce passage de l'Apocalypse qu'il y a deux livres, et il y a le livre des œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Alors là, il faut bien comprendre quelque chose, parce qu'au départ, quand je lisais ce passage, j'avais l'impression que si on n'était pas inscrit dans le livre de vie, on avait peut-être possibilité de se rattraper avec les œuvres. Il faut bien comprendre quelque chose. Ce livre des œuvres de chacun ne sera pas ouvert pour essayer de sauver les personnes, mais il sera ici ouvert pour justifier la condamnation des personnes. Chacun fut jugé ou condamné selon ses œuvres. Et toute la Bible nous enseigne que l'on peut être sauvé par ses œuvres. N'espérez pas d'être sauvé avec vos œuvres. Pour deux raisons. Parce que les mauvaises œuvres, elles ne peuvent pas être contrebalancées par les bonnes œuvres. La Bible le montre clairement. Il y a ce passage de Jacques où il est écrit que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul de ses commandements devient coupable envers tous. La Bible montre clairement que nos mauvaises œuvres ne peuvent pas être effacées par nos bonnes œuvres. On ne peut pas faire de la compensation. C'est très religieux d'essayer de contrebalancer nos mauvaises actions par des pratiques religieuses. Mais ça ne marche pas avec la justice de Dieu. Et puis aussi parce que nos bonnes œuvres, elles ne sont pas si bonnes que cela. La Bible nous dit que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Déjà, ce qui est fait dans le secret, c'est rarement notre avantage. Mais en plus, Dieu, il va juger les actions des hommes en tenant compte des motivations, en tenant compte des intentions. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'œuvres prétendues bonnes qui ne seront plus très bonnes, une fois qu'on aura vu les intentions et les motivations. Je prends souvent cet exemple. Vous avez des personnes qui font un don. Mais quand on regarde la motivation, c'est pourquoi ? Pour essayer de se faire voir, pour essayer de jouer sur sa notoriété. Ces gens-là, ils ont leur récompense. Mais on ne peut pas appeler ça une œuvre bonne. Personne ne pourra être sauvé par ses œuvres. Comprenons bien, ce livre des œuvres qui sera ouvert ne fera qu'aggraver le cas de ceux qui sont condamnés. Ça sera pour justifier cette condamnation éternelle. Et puis enfin, il y a le livre de vie sur lequel sont inscrits ceux qui sont sauvés. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alors il y a d'autres textes qui nous parlent sur le livre de vie sur lequel je vais revenir, mais je pense à Moïse qui à un moment donné a fait une prière lorsque le peuple avait péché. Et que Dieu se mettait en colère et qu'il voulait dire je vais le détruire et on va faire autre chose. Je le dis avec mes mots. Et Moïse dira, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. À quel livre il pense? Est-ce qu'il pense au livre de vie? Vous pourrez. En tous les cas, la réponse de Dieu, elle est frappante et elle est importante. C'est celui qui a péché que j'effacerai de mon livre. Exode 32, verset 32. Donc retenons déjà cette première pensée. Il y a plusieurs livres ou registres qui sont tenus dans le ciel, dont le livre de vie, celui-là, il est bien évidemment important. Deuxième réflexion par rapport au livre de vie, il n'y a que deux possibilités par rapport au livre de vie. Soit vous êtes inscrit, et ça signifie que vous êtes sauvé, soit vous n'y êtes pas et vous êtes perdu. On est bientôt dans la période du bac, il n'y a pas de repêchage. Je me souviens lorsque j'ai passé mon bac, mon deuxième bac, parce que le premier, je ne suis même pas allé voir. Mais le deuxième bac, je suis allé voir, et quand on voit la liste, ça commence à monter. Ça palpite. Quel soulagement quand on est inscrit sur la liste. Parce qu'avant, on allait voir, je ne sais plus aujourd'hui comment ça marche, on reçoit, mais plutôt. Mais avant, on allait voir sur là où on avait passé l'examen. Quel soulagement quand on se voit inscrit sur la liste. Mais quel plus grand soulagement de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est le... Vous savez, des fois, on dit, il y a cette expression, c'est le pire truc qui puisse nous arriver. Mais le pire truc qui puisse vous arriver, c'est que votre nom ne soit pas inscrit dans le livre de vie. Quand Jésus a guéri un homme Hein, vous rappelez ce boiteux dans la piscine de Bethesda? Jésus l'a guéri. Et qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et le pire, c'est pas retomber malade. Le pire, c'est que son nom ne soit pas inscrit dans le livre de vie et qu'il soit perdu. Ça serait même dommage, je dirais, c'est même le comble. Vous avez des personnes qui ont expérimenté la guérison divine, un miracle, et eux se retrouvent perdus, mais ils vivront avec des regrets éternels dans ce cas-là. Le verset 15, il fait frémir. Hein. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça ne cadre pas avec les discours qu'on attend ou qu'on a envie d'entendre. Dieu est trop bon pour envoyer en enfer. On ira tous au paradis. L'enfer n'existe pas, ce n'est pas la Bible. Les Suisses, ils disent, il n'y a pas le feu au lac. Mais là, il est quand même un lac de feu. Hein. Il y a quand même une réalité qui est là. Il y a urgence. Tournons-nous vers Jésus-Christ crucifié et ressuscité, parce que lui seul peut laver de tout péché. Et que chacun puisse avoir la certitude que ses péchés sont effacés et que son nom est inscrit dans le livre de vie. Je cite un texte important, je vais en citer même deux. Apocalypse chapitre 21 verset 27, il est écrit « Il entrera chez elle, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Ce texte appuie sur ce que je viens de dire. Pour entrer au ciel, pour vivre l'éternité avec Dieu, il faut absolument que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et ce texte nous donne aussi un indice. Il parle du livre de vie de l'agneau. Et là, ça nous montre où ça pointe vers le comment. Comment avoir son nom inscrit dans le livre de vie. L'agneau, nous savons bien sûr que ça nous parle de Jésus, mais Jésus sous l'angle de la crucifixion et de la résurrection. Et c'est bien évidemment par rapport à Jésus-Christ crucifié et ressuscité que le salut s'engage. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». On se rappelle aussi cette prophétie d'Ésaïe qui parle de Jésus comme un agneau destiné à la boucherie. Et toutes ces images sur Jésus l'agneau pointent vers l'œuvre de Christ au calvaire. Jésus, il a donné sa vie sur la croix. Il est mort, il est ressuscité. Et notre foi, elle doit intégrer cela. C'est cela qu'il faut croire pour avoir la vie éternelle et avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et puis je cite un autre texte que l'on connaît mieux. Dans Luc chapitre 10, verset 17, il nous est dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Jésus recadre les disciples ici sur les priorités. Ils étaient heureux, enthousiasmés de ce qu'ils avaient vécu. Jésus les avait envoyés parcourir tout le territoire d'Israël. Ils avaient annoncé la bonne nouvelle. Ils avaient été les instruments de guérison, de délivrance. Ils reviennent tout excités. Et Jésus replace les priorités. La plus grande des joies, la chose la plus importante, c'est de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux, dans le livre de vie. C'est important. Notre nom, il peut être inscrit sur beaucoup de registres. Hein. Il peut être inscrit sur la liste des béatifiés, l'Église catholique. Mais vous avez des gens qui ont été béatifiés qui ne sont peut-être pas sauvés, hein, probablement pas. Hein. Certains, c'est sûr. On peut être sur une liste de VIP. On peut être sur beaucoup de registres. On peut être sur le registre de notre Église. Hein. Mais si la personne n'est pas née de nouveau et qu'elle a été baptisée par erreur, si on peut parler comme ça, ou rapidement, ben elle n'est pas sauvée, ça... Malheureusement, on l'observe des fois dans nos églises, on a des personnes, hein, des fois je me pose la question sur certaines personnes qui font partie de nos églises, je doute de la nouvelle naissance, je ne la vois pas. Hein, on se pose la question et c'est difficile en plus d'amener quelqu'un qu'on a baptisé à la nouvelle naissance ensuite. Parce que la personne, elle est convaincue ou plus ou moins elle pense qu'elle est chrétienne. et qu'on est allé trop vite. Après, c'est difficile. La liste sur laquelle on doit être inscrit, c'est le livre de vie. Troisième réflexion, le Nouveau Testament nous parle de personnes inscrites dans le livre de vie, et là c'est étonnant, avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13, verset 8, « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Apocalypse chapitre 17, verset 8, « Il est question de ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. » À plusieurs reprises, il est question que finalement, notre nom est inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Quand je prêche l'évangile, et quand je dis à quelqu'un « Donne ton cœur à Jésus », j'aurai envie de lui dire « Donne ton cœur à Jésus » et Jésus va écrire dans le livre de vie ton nom. Et ben, je ne peux pas le dire. Parce que la Bible, elle ne parle pas comme ça. Elle montre que c'est déjà fait. Alors comment comprendre cela? Pourquoi la Bible parle comme ça? Certainement pas parce que Dieu aurait décidé à l'avance qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Ne perdons pas de vue d'abord que le livre de vie fait partie de l'éternité. On est hors du temps. On est dans le ciel. Et donc c'est quelque chose qui nous dépasse. Et Dieu est capable de faire des choses à l'avance, en sachant très bien quelle sera notre conduite plus tard. Là, on est hors du temps. Et ça, on ne doit jamais le perdre de vue. Hein, ce livre, il est en haut. Il est au ciel. Et puis, n'oublions pas que le salut est à la fois l'œuvre de Dieu et la responsabilité humaine. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative du salut. C'est lui qui a dit « Voici, je viens pour accomplir, ô Dieu, ta volonté ». C'est lui qui a tout accompli sur la croix. Et c'est même lui qui va aussi ouvrir les cœurs. C'est lui qui va chercher à convaincre les cœurs. Et en même temps, le salut, c'est vrai, c'est une démarche humaine. Il faut accepter, il faut à un moment donné exercer sa foi. On décide de se repentir. C'est à la fois une œuvre de Dieu et c'est à la fois une œuvre. Et c'est pas facile à emboîter l'un dans l'autre. Quelqu'un a essayé de combiner ces deux vérités en imaginant la porte du ciel. Et la porte du ciel, elle aurait comme une écriture devant et une écriture derrière. Pour ceux qui entrent, quand on vient à la terre et qu'on entre, c'est « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais une fois que tu es rentré dans le ciel et tu te tournes pour regarder en direction de la terre, c'est « sauvé de toute éternité ». Ça nous aide un petit peu à combiner ces vérités qu'on a du mal à concilier. Mais comprenons bien, en disant que l'on est inscrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, il y a cette volonté de Dieu de bien nous faire comprendre que le salut, c'est son œuvre. C'est vraiment une œuvre de grâce. Cela n'empêche pas que le salut se reçoit et se vit quand on décide de croire au Seigneur Jésus. Quand on place sa foi en Jésus, on expérimente la justification, la nouvelle naissance, et on a la certitude que notre nom est inscrit dans le livre de vie, même si c'est de toute éternité. Et puis, une quatrième réflexion. Et là, ça interpelle aussi, surtout que ça va presque à l'encontre de ce que je viens de partager. À plusieurs reprises, la Bible montre que l'on peut être effacé du livre de vie. Elle ne dit pas qu'on peut être inscrit dans le livre de vie, mais à plusieurs fois, on remarque qu'on peut être effacé du livre de vie. J'ai cité tout à l'heure la prière de Moïse, qui dira « Efface-moi de ton livre ». Une prière audacieuse. Hein. Mais la réponse de Dieu, elle est quand même claire, je la redis. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ça montre clairement qu'il y a un livre là et que Dieu peut effacer quelqu'un. Dans le psaume 69, verset 29, dans un psaume d'imprécation, alors les psaumes d'imprécation sont toujours un petit peu mystérieux parce que finalement on prie pour la destruction de ses ennemis. Alors il faut les voir comme prier pour l'exercice de la justice divine. Il faut plutôt le voir sous cet angle-là. Mais David demande à Dieu ceci, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. On retrouve à nouveau cette idée d'effacer quelqu'un du livre de vie. Et puis il y a un texte qui va clairement dans ce sens-là, et c'est carrément une parole de Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 3, c'est la lettre à l'église de Sardes. « Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. » garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le verset 5 montre clairement qu'une personne authentiquement née de nouveau, mais qui ne persévère pas, qui fait le choix de pécher délibérément, qui à un moment donné rejette Jésus-Christ, qui abandonne son salut, son nom peut être effacé du livre de vie. Ça s'oppose à certaines conceptions du salut. Vous savez que dans les évangéliques, il y a un petit peu de courant. Et il y a un courant qui dit qu'on ne peut pas perdre son salut, mais quand nous disons que Dieu peut effacer le livre de vie, je ne sais pas comment il l'explique, mais on est placé devant cette réalité. On a eu l'occasion d'aborder ce sujet il y a quelque temps. En tous les cas, là, on voit que la responsabilité, elle est mise du côté de l'homme. En disant que l'on en est inscrit depuis, finalement, avant la fondation du monde, ça met le projecteur sur la grâce de Dieu, mais en mettant en évidence qu'on peut s'écarter soi-même, ça nous place sur notre responsabilité. Et ça me ramène vers quelque chose que je dis assez souvent. Au ciel, ceux qui seront sauvés ne pourront dire « c'est vraiment la grâce de Dieu, j'y suis pour rien ». Par contre, en enfer, dans la perdition, ceux qui seront perdus pourront dire « c'est de ma faute ». Vous voyez, ça nous ramène sur cette double réalité. Cette perspective d'être effacé, bien sûr, du livre de vie, ça ne doit pas nous amener à vivre dans la crainte. On l'a déjà dit, malheureusement, ça nous arrive de pécher. On sait ce qu'on doit faire. On ne perd pas son salut dès qu'on pêche. Heureusement. C'est une persévérance dans le péché. C'est une volonté de rejeter le Seigneur. C'est un abandon. Mais ça doit nous responsabiliser. On est sauvé, mais ce n'est pas pour vivre n'importe comment. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 2, Paul écrit « J'exhorte Evodie et j'exhorte Syntich à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Paul s'adresse à des chrétiens, il les interpelle directement, il les cite en précisant que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et j'y vois deux objectifs. Déjà, se réjouir en permanence de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et ça rejoint la parole que Jésus a donnée aux disciples. Parce que l'épître de Paul aux Philippiens, elle est quand même dans un contexte de souffrance. Et des fois, les souffrances du temps présent pourraient nous accabler. Et de se rappeler que mon nom est inscrit dans les cieux, ça nous permet un peu de surfer sur les difficultés, pas d'être déconnecté des difficultés, mais de les regarder quand même de plus haut, de les considérer autrement. Et puis je crois que Paul écrit ceci pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi à cause de cette réalité glorieuse. Evodie et Syntich, elles étaient en bisbille. Elles étaient en train de se disputer. Et finalement, je comprends un peu la parole de Paul comme ça. Votre nom est inscrit dans le livre de vie, mais arrêtez de vous chamailler. Dans le ciel, vous n'allez pas vous chamailler. Vous disputez, il y a cette pensée qui est là. Je termine simplement. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Les réponses du style « j'espère », c'est mauvaise réponse. Les réponses du style « peut-être », c'est mauvaise réponse. Non, c'est aussi une mauvaise réponse, bien évidemment. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui sait que son nom est inscrit dans le livre de vie parce qu'un jour il a placé sa foi dans la personne de Jésus, dans ce que Jésus a fait sur la croix, et le Saint-Esprit a déposé en lui cette assurance qu'il est enfant de Dieu, qu'il lui appartient. Et ça, c'est précieux. À un moment donné, elle s'est posée. Ça a été un des effets du salut. Mais c'est un... Je termine simplement avec une petite pensée. je crois que la loi RGPD, elle est respectée dans le ciel. C'est de l'humour, hein. Mais il semble que le livre de vie ne contienne que le nom. Vous savez, la loi des RGPD, c'est cette loi où il faut faire attention à tout ce qu'on met sur nos fichiers informatiques, etc. Mais il semble que dans le fichier du ciel, il n'y a que le nom. Comme si tout le reste était effacé. Il n'y a plus rien. On regarde, on retient que le nom. Et ça, c'est une vérité qui fait du bien. Seulement, pourquoi ? Parce que tous nos péchés ont été pardonnés, effacés. Combien c'est bon et combien c'est soulageant de savoir que Jésus a inscrit nos noms dans le livre de vie. Avant la fondation du monde, c'est dans l'éternité, ça nous échappe, mais c'est bon de le savoir. Et j'invite quelqu'un, si la décision n'a pas été prise, son nom n'est pas, il n'y a pas cette conviction, de se tourner vers Jésus. C'est bon. On prie ? Merci Seigneur parce